Pierre Aski, bonjour.
Bonjour Nicolas.
Vous revenez, Pierre, sur l'attribution du prix Sakharov à l'opposant russe Alexei Navalny.
Oui, lorsque le Parlement européen a créé en 1988 le prix Sakharov pour honorer le grand scientifique et dissident soviétique, l'URSS vivait ses dernières années d'existence, même si nous ne le savions pas encore. 33 ans plus tard, ce prix est décerné à un autre dissident, issu de la même terre russe, Alexei Navalny, symbole d'une histoire qui, de ce point de vue, ne progresse pas beaucoup. Il n'y a pas de comparaison à faire entre Andrei Sakharov et Alexei Navalny, les époques sont tellement différentes. Mais force est de constater que la Russie post-soviétique ne s'est pas débarrassée des méthodes policières de son ancêtre. Le sort de Navalny a tout de l'acharnement répressif dont les régimes autoritaires ont le secret. Il serait surprenant que l'opposant à Vladimir Poutine soit autorisé à quitter sa colonie pénitentiaire pour recevoir son prix à Strasbourg, comme l'a réclamé hier le Parlement européen.
Pourquoi ce choix cette année, Pierre ?
Signe d'un monde qui va mal, Nicolas, les voix des eurodéputés étaient partagées entre Alexei Navalny, soutenu par les conservateurs et les libéraux, et les femmes afghanes, défendues par les sociodémocrates et les écologistes. Le choix de Navalny répond évidemment au lien de son histoire avec l'Union européenne. C'est d'Allemagne qu'il est reparti pour Moscou le 17 janvier dernier, après avoir miraculeusement survécu à une tentative d'empoisonnement en Russie. Arrêté à son arrivée, il purge une peine de 2 ans et demi d'emprisonnement. Dans une communication avec le New York Times, le mois dernier, Navalny a parlé de ses conditions de détention, contraint de regarder la télévision d'État et des films de propagande 8 heures par jour dans le cadre d'un plan de rééducation. Pas de quoi briser un homme qui en a vu d'autres dans sa vie d'activiste.
Le prix, Pierre, aura-t-il un quelconque effet ?
Le prix Sakharov aura au moins le mérite d'attirer l'attention sur l'arbitraire du sort d'Alexei Navalny, tout comme le récent prix Nobel de la paix a été attribué à 2 journalistes, dont le russe Dmitri Muratov, défenseur d'une liberté d'informer en danger. Mais ce prix ne fera pas bouger d'un pouce Vladimir Poutine, qui s'est visiblement senti menacé par le militantisme d'Alexei Navalny, pourfendeur de la corruption du régime et qui, dans un jeu politique régulier, serait susceptible de rivaliser avec le maître du Kremlin. Le pouvoir russe et ses alliés ne manqueront pas de ressortir la part d'ombre du parcours de Navalny, qui fut un temps nationaliste et xénophobe. Mais ces épisodes connus n'enlèvent rien à sa popularité dans la jeunesse russe, qui subit le carcan d'un système autocratique. L'espace politique occupé un temps par Navalny et ses amis est aujourd'hui verrouillé par le Kremlin. Comme l'analysent les auteurs d'un livre qui vient de sortir sur Navalny, « L'homme qui défie Poutine », il n'est pas exagéré de dire qu'en prenant de telles décisions, le régime politique de la Russie a franchi un pas décisif vers une dictature sans partage. Le prix du Parlement européen tire la même conclusion.
Pierre Aski, merci. Dans un instant, le grand entretien de la matinale avec Jean-Marc Jancovici.
Ce soir, sur France Inter, Robert Badinter est dans l'heure bleue.
20h, Laure Adler.
À l'occasion du 40e anniversaire de l'abolition de la peine de mort, Robert Badinter nous parlera de l'avenir.
L'heure bleue, l'espace des possibles.
Du lundi au jeudi, sur France Inter, à partir de 20h.
Podcasté, téléchargé sur l'application Radio France.
Vos verres de lunettes. Pour vous, ce sont juste des verres. Pour nous, chez Zeiss, ce sont vos yeux. Alors avant de concevoir vos verres, on s'est un peu entraîné. Avec nos objectifs, on a été les yeux du premier homme sur la Lune, des plus grands cinéastes. On a été les yeux de Monet et le microscope de Darwin. La machine chez votre ophtalmologiste, c'est Zeiss aussi. Et toute cette histoire, ces innovations, devinez où on les a mises. Dans vos verres de lunettes. Zeiss. Trouvez votre opticien partenaire sur Zeiss.fr. Ces produits sont des dispositifs médicaux.
Commerçant, taxi, indépendant, choisissez la simplicité. En passant au lecteur de carte bancaire SumUp, à partir de 29€ seulement, sans frais mensuels. Et pour réaliser des ventes en toutes circonstances, les solutions de paiement à distance sont incluses. Rendez-vous sur SumUp.fr.
Merci d'écouter Inter, il est 8h23.
Une journée pour le climat, 10 jours avant la COP26, sur France Inter.
Et oui, c'est une journée pour le climat. Avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien un ingénieur. Il enseigne à l'École des Mines de Paris, membre du Haut Conseil pour le climat. Il a cofondé une société de conseil spécialisée dans le changement climatique. Avec Christophe Blin, il publie une bande dessinée intitulée « Le monde sans fin » chez Dargaud en librairie le 29 octobre prochain. Questions et réactions, standards, applications et réseaux sociaux. Jean-Marc Jancovici, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être à notre micro ce matin. Vous êtes un spécialiste reconnu de l'énergie et du climat. Vos conférences sont vues des centaines de milliers de fois sur Internet et vous avez su construire un large public qui vous est très fidèle sur ces questions. Venons-en donc à cette BD, Le Monde sans fin. Le dessin est signé Christophe Blin, auquel on doit l'excellente BD Quai d'Orsay. Dans l'album, il joue le Candide auquel vous expliquez le monde, c'est-à-dire le règne de l'énergie et d'abord et avant tout l'énergie fossile, le pétrole. On va y venir en détail. C'est clair, lumineux et drôle et on sort moins bête de la lecture de cet album. Merci déjà pour ça. Et dites-nous pour commencer, pourquoi avoir voulu faire une BD ? Est-ce que vous visiez la vulgarisation d'une matière qui est quand même aride ? Est-ce que vous vouliez toucher un public plus large et peut-être plus jeune ?
Les deux, mon général, ça faisait longtemps que je... Enfin, il y a une maxime qui est bien connue, qui est qu'un petit dessin remplace parfois un long discours. Et ça faisait très longtemps que j'avais en tête d'essayer de faire passer l'information sur ces sujets, qui est une information technique, aride, quantitative, enfin des trucs avec lesquels on n'est globalement pas à l'aise, par des canaux qui font appel à l'émotion. Et alors, il y en avait deux auxquels je pensais. Et en fait, j'ai pensé historiquement d'abord au cinéma. Il y a une dizaine d'années, je m'étais mis en tête d'essayer de faire Terminator du climat. Alors, donc l'idée, c'était d'écrire un scénario qui aurait été orthodoxe sur le plan scientifique.
Joué ou par des, dans
non,
un
non,
dessin
joué,
animé
joué, oui, ah, un blockbuster, voilà. Ouais. mais qui aurait servi en même temps de film de vulgarisation parce que la partie scientifique aurait été orthodoxe. Bon, le projet n'est pas abouti. Et le dessin et la BD, c'était un autre truc qui me trottait dans la tête depuis longtemps, exactement pour les mêmes raisons. Et du reste, quand je fais des cours ou des interventions, souvent, j'utilise énormément de dessins, de graphiques, de petits trucs qui montent et qui descendent. Et puis un jour, je reçois un message de Christophe Blin, que je ne connaissais évidemment pas, mais que je connaissais de réputation. Et en gros, je me suis dit, on refuse pas un truc comme ça. Donc j'ai dit oui avec plaisir et enthousiasme. Et du reste, je ne le regrette pas une seconde.
Pour tout comprendre, vous utilisez notamment la figure du super-héros Iron Man. Vous comparez l'énergie à l'armure d'Iron Man. Vous écrivez, vous dites dans cette bulle, l'énergie, c'est ce qui lui permet de voir super loin, voler super vite, porter ce que tu veux, ne jamais avoir ni froid ni chaud, détruire ce qu'on veut. Communiquer ce qu'on veut à qui que ce soit à n'importe quelle distance. L'image d'Iron Man, elle est frappante, mais elle veut dire quoi exactement ? Qu'on est tous des Iron Man en fait ?
Oui, et des Iron Woman du reste.
Oui, oui, oui. Accessoirement, vous avez raison de féminiser.
Pour prendre, alors en fait, la manière dont on s'en rend compte, c'est en comparant la puissance des appareils qu'on utilise et la puissance de nos propres muscles. Si on fait un effort qui consiste par exemple à monter de Chamonix au sommet du Mont Blanc dans la journée, qui est un effort sympathique, on se rend compte que nos jambes auront fourni une puissance de l'ordre d'une centaine de watts en moyenne pendant la journée. Le premier mixeur à soupe venu, il fait 300 watts. C'est-à-dire que quand vous appuyez sur le bouton du mixeur à soupe, vous mettez en route trois organismes humains qui vont mixer la soupe pour vous. Un ascenseur, c'est 50 cyclistes qui pédalent dans la cave. Et si je prends un tractopelle ou un engin de travaux publics, ça multiplie la puissance des muscles par 10 000 quand l'ouvrier monte dans la cabine de pilotage. Si je prends un laminoir, et il y a de l'acier absolument partout, sans acier, vous n'avez pas de radio, pas de machine à laver, pas de maison, rien. Là, l'ouvrier qui pilote le laminoir, il multiplie la puissance de ses muscles par 10 millions. Donc en fait, notre costume d'Iron Man, il ne ressemble pas à un costume, c'est pas ça qu'on met le matin, des vêtements qui ressemblent à des vêtements. Mais le parc de machines qu'il y a partout dans le monde, en fait, il a cette fonction. Il soulève pour nous, il broie pour nous, il étire pour nous, il transporte pour nous, il chauffe pour nous, il refroidit pour nous, il fait tout ça. Juste, il n'a pas la tête du costume d'Iron Man et l'énergie, c'est sa nourriture.
Et vous avez, Jean-Marc Jancovici, pour parler de l'énergie, une autre métaphore, vous convertissez l'énergie en jour de travail d'un esclave. Chaque terrien consomme en moyenne 22 000 kWh par an. C'est comme si chaque terrien avait à peu près 200 esclaves qui bossaient pour lui en permanence. Et en France, c'est plutôt 600 avec les importations. Enfin, citation de cette bulle, cette comparaison permet de figurer notre dépendance à l'énergie et de souligner aussi peut-être le problème moral qu'il y a derrière.
Alors c'est pas tant un problème moral encore que avec les conséquences de l'utilisation de l'énergie, on peut se poser la question. J'ai un collègue qui s'appelle Jean-François Moreau qui avait publié il y a quelques années un petit livre qui s'appelle Des esclaves énergétiques et il comparait notre rapport aux énergies fossiles, pardon, au rapport qu'on avait à l'esclavagisme dans l'ancien temps, c'est-à-dire quelque chose qui nous rendait la vie très douce à court terme. Enfin, pas pour les esclaves, mais pour les autres, et qui, par contre, posait effectivement des questions dans le rapport à autrui. Alors, en fait, l'énergie fossile pose une question dans le rapport à la génération qui suit, qui a moins d'avantages et plus d'inconvénients. Donc, il y a aussi une question de morale qui va derrière. Mais surtout, on utilise cette image des esclaves énergétiques pour montrer que si les machines qui utilisent l'énergie n'existaient pas, en fait, il faudrait multiplier la population mondiale par 200 pour avoir une production économique qui ressemble à peu près à celle qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc on aurait des petits problèmes de place. Et c'est une autre manière de dire que si on enlève l'énergie, donc les machines, en fait, on a une division par 200 de la production économique.
Oui,
en gros.
Parce que et on va y venir, c'est-à-dire que tout le but de ce livre-là, de cette BD-là, c'est d'expliquer ce que vous expliquez depuis 30 ans, c'est qu'on est trop...
Je ne suis pas si vieux, depuis 22, ça
depuis
me suffira.
Depuis 22 ans, si ça vous va...
On a arrondi à la dizaine.
On ne va pas vous blesser. C'est notre addiction, au fond, à l'énergie et le fait qu'on doit réduire cela. Mais une dernière image qui, moi, m'intéresse, vous montrez bien comment on consomme l'énergie, notamment le pétrole, dans tous les objets du quotidien. Il y a deux ou trois bulles où vous montrez les bottes contre la pluie qu'on met, il y a du pétrole. Les jouets pour les enfants, il y a du pétrole. Le ballon de foot avec lequel on joue avec les enfants, il y a du pétrole. Les couverts qu'on utilise pour couper notre viande, il y a du pétrole. Les vêtements et même la brosse à dents. Se laver les dents devant un miroir, c'est littéralement nager dans une mare de pétrole. La brosse à dents, le dentifrice, le tube et même le miroir, le monde... Tout le monde est tout ce qu'on fait à tout moment, en fait, on est dans une consommation, dans une emprise totale du pétrole et de l'énergie fossile.
Oui, absolument. En fait, le pétrole, c'est le XXe siècle. C'est pas l'énergie du XXe siècle, c'est le XXe siècle. Et sans pétrole, il y aurait pas non plus ni France Inter ni les moyens de transport qui m'ont permis de venir ce matin. Tout ça, même si j'ai pris le métro, en fait.
Alors on va préciser pour les auditeurs, vous avez refusé un des seuls, je pense, invités qui refuse un taxi, parce qu'en général, on paye un taxi à nos invités. C'est l'usage. Et vous avez dit. Hors de question, je prends le métro.
Même les écolos, ils prennent le taxi quand ils viennent chez vous?
Ah, je sais pas, faudrait qu'on vérifie. Peut-être ils prennent leur voiture individuelle, je sais
mais
pas.
Mais bon, je trouve que j'habite pas très loin d'une gare de RER et que...
On me dit au casque qu'il y a des taxis verts.
Oui, mais ils sont moins verts que le métro quand même.
Oui.
Donc voilà, vous avez failli être en retard à cause du RER.
Voilà, et donc on vit dans l'emprise et dans l'empire du pétrole, c'est ça?
Absolument. Et alors le pétrole sert non seulement d'énergie, donc non seulement il sert de croquettes pour machines, enfin d'épinards pour Iron Man, c'est les épinards de Popeye, mais pour Iron Man. Mais par ailleurs, il sert de matière première pour fabriquer tout ce qui est en plastique, tout ce qui est en fibres de synthèse. Donc tous les gens qui portent des fibres de synthèse, vous savez, tous les polis machin chouette là qu'on trouve dans les étiquettes de vêtements, tout ça c'est des dérivés du pétrole. La pétrochimie est absolument partout, c'est elle qui nous nourrit. Les engrais azotés qu'on utilise dans les champs, alors c'est pas du pétrole, c'est du gaz. Le tracteur, il utilise du pétrole. Le camion qui a alimenté les villes, il utilise du pétrole. Enfin, donc on mange du pétrole. Le pétrole est absolument partout dans nos vies.
Même vous.
Hélas, même moi.
Eh oui. Alors, même si vous ne prenez plus l'avion et vous ne prenez plus la voiture.
Alors, je prends quand même de temps en temps la voiture, mais probablement moins que la moyenne de la population. Mais je suis dépendant d'une civilisation dopée au pétrole. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'abstraire, soit tout seul, du monde dans lequel on vit.
Et alors, comment on retire la seringue, précisément? C'est toute la question. Vous comparez souvent l'énergie à une drogue. Au début, ça peut sembler agréable. Puis vient la gueule de bois, vient la descente. Donc, comment on se désintoxique de ça? Alors, l'enjeu de ce livre.
Alors, l'enjeu de ce livre, déjà, c'est de comprendre à quoi... Enfin, ce que veut dire... Alors, l'intoxication est un mot un peu violent. Parce que l'énergie, ce qu'on explique aussi, c'est que ça a des avantages et des inconvénients, et que c'est des affaires d'ordre de grandeur. C'est-à-dire, si on était 5 millions sur Terre, être tous shootés au pétrole ne poserait aucun problème. Il y aurait du pétrole pour la nuit des temps, et c'est pas 5 millions de personnes, même roulant en SUV, qui feraient grand-chose au climat. Donc tout ça est une affaire d'ordre de grandeur, c'est aussi qu'on essaye d'expliquer dans cette BD. Et se désintoxiquer, entre guillemets, c'est quelque chose qui est un processus très très long. En fait, c'est autour de ça que tourne tout ce qui a été fait en termes de développement durable, ministère de la Transition et autres conventions citoyennes. Mmh. On se rend compte que c'est très dur, parce que l'énergie est une drogue dure. C'est quelque chose qui vraiment est partout. Donc, si on veut faire avec moins, ça doit être systémique. Si on prend l'appareil politique, c'est un problème présidentiel, c'est pas un problème du ministre de l'Environnement. Le ministre de l'Environnement, dans cette affaire, est un exécuteur testamentaire. C'est pas lui qui a la vision qui nous permet de sortir des énergies fossiles. C'est un problème géopolitique, c'est un problème économique. Donc en fait, il faut s'en occuper absolument partout.
Alors, pour être clair, votre grande idée, c'est qu'il faudrait que la quantité de combustible fossile consommée dans le monde baisse de 5% par an, tous les ans.
Oui.
En gros, vous voulez qu'on revienne à la situation de 2020. C'est-à-dire que 2020, avec le Covid, c'est à peu près ça, non? Ça a baissé à peu près de ces ordres-là. Dites-nous, expliquez-nous.
Au moment où on va ouvrir la COP26 à Glasgow, en fait, il faut rappeler ce que nous dit la physique. La physique nous dit qu'une fois qu'on a mis le CO2 dans l'air, il n'a pas de processus d'épuration spontanée. C'est-à-dire, tant qu'il est dans l'air, il est stable, il s'en va pas. Pour qu'il s'en aille, il faut qu'il revienne au contact du sol, et c'est un processus très lent. Ce qui veut dire que si on veut respecter les 2 degrés qui sont aujourd'hui dans toutes les têtes. Il y a une quantité maximale de CO2 qu'on peut mettre dans l'atmosphère. Après, ça déborde quelque part et on peut plus éviter les 2 degrés. Et si on veut se limiter à cette quantité maximale de CO2 dans l'atmosphère, il faut que les émissions se mettent à baisser de 5% par an, tous les ans, à partir de maintenant. Donc en fait, c'est pas moi qui veux, c'est la physique qui veut, ce qui est très désagréable parce qu'elle dépend pas de nous.
Est-ce possible? C'est-à-dire, on rappelle 2020, les avions cloués au sol, les voitures au garage, les entreprises qui roulent, qui marchent au ralenti, est-ce jouable? Vous voulez dupliquer 2020 à l'infini?
Alors, je ne veux pas, je dis juste, il faut comprendre que les 2 degrés, c'est ça que ça signifie en pratique. Et on comprend bien que si c'est ça qu'on veut en pratique, la modification dans l'organisation qu'on doit avoir et la vision qu'on doit avoir de l'avenir et nos priorités, ça veut dire par exemple que le climat passe avant les euros. C'est ça que ça veut dire, par exemple, très concrètement. Alors, si la question que vous me posez, c'est est-ce qu'on y est prêt aujourd'hui? Dans l'essentiel des mentalités, probablement pas. Après, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne fait pas ça? Et malheureusement, la réponse, si on ne fait pas ça, bah, c'est comme pour le drogué. C'est-à-dire, soit un jour, le dealer en a plus et c'est très désagréable, soit vous en mourrez, vous chutez et c'est très désagréable aussi. Donc, en fait, il n'y a pas de sortie évidente à ce problème. La physique nous interdit d'avoir la situation actuelle qui perdure pour l'éternité. Voilà, ça malheureusement on peut pas.
Jean-Marc Jancovici, si on pousse l'idée au bout et qu'on imagine, on suit votre scénario, que nous Européens on parvient à faire ça, donner l'exemple, faire ce que vient de décrire Léa en vous citant, la Chine, les États-Unis, vous les voyez accepter de baisser leur consommation, changer de mode de vie, ou cette idée est totalement farfelue. Ça se fera au niveau mondial, on est d'accord, ou ça ne se fera pas?
Vous avez des enfants, je crois.
Oui.
Comment est-ce qu'ils ont appris à parler? Vous leur avez donné des cours? Non. Ils ont appris tout seuls. Ils vous ont regardé, ils vous ont imité. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, l'homme est un animal mimétique. S'il n'y avait pas de mimétisme dans le comportement humain, il n'y aurait pas d'effet de mode, il n'y aurait pas d'organisation structurée, etc. Donc je refuse l'argument qui consiste à dire, si nous on commence à faire des choses qui sont un peu structurées, un peu acceptées, qui paraissent pas idiotes aux autres, les autres vont rester les bras croisés sans rien faire. J'y crois pas une seconde.
Donc c'est un pari sur l'intelligence. Minimum le mimétisme.
Exactement. C'est un pari sur le fait qu'à partir du moment où on prend des initiatives, les autres commencent à vous regarder. Alors certains en disant burke et d'autres en disant c'est vachement intelligent ce qu'ils font. Donc et en plus, de toute façon, nous on est coincés. Pourquoi? Parce que les énergies fossiles en Europe, elles sont déjà orientées à la baisse, même si on n'en a pas envie. Le charbon est en déclin en Europe depuis les années 50. Le pic de production du charbon en Europe, c'est les années 50. Le pétrole est en déclin en Europe depuis 2006. C'est-à-dire le moment, en gros, où le monde a passé son pic de production du pétrole conventionnel. Et le gaz est en déclin depuis la fin des années 2000, moment où la mer du Nord a passé son pic. Donc de toute façon, nous, on est en déclin subi sur les trois énergies fossiles qui approvisionnent l'Europe. Donc on est déjà dans la seringue. Donc en fait, c'est un choix sans regret de nous décarboner, puisque de toute façon, on est coincé.
Et qu'est-ce que vous pensez, justement, puisque ça rejoint l'actualité, la hausse des prix du gaz, de l'électricité, du gasoil, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, au fond, c'est un mal pour un bien? Est-ce qu'il faut s'habituer au fait que les prix de l'énergie vont devenir de plus en plus chers? Quel est votre avis sur ces questions? Ou est-ce qu'il faut vite baisser les taxes? Et votre avis?
Alors, mon avis, c'est que quand ça arrive, on est coincé. Parce que, en fait, comme la dépendance à l'énergie fossile, elle est structurelle, c'est une dépendance de long terme, au moment où ça arrive, vous pouvez rien faire d'autre que d'essayer d'éteindre l'incendie, parce qu'il aurait, entre guillemets, fallu s'en occuper avant, pour être capable de ne pas se retrouver dans cette situation. Donc c'est un signal d'alerte. Ça nous invite à comprendre encore une fois l'importance de l'énergie dans le monde qui nous entoure et qu'il suffit pas de faire un discours magistral de temps en temps, la maison brûle pour l'un et make the planet great again pour l'autre, pour que le problème soit réglé. Ça doit devenir une préoccupation de tous les instants.
Comment vous la jugez là dans la campagne présidentielle qui commence? Est-ce que vous avez l'impression que les préoccupations climatiques intéresse ou pas suffisamment? Vous dites souvent le Royaume-Uni, la Finlande, je crois, et la Suède sont des bons élèves. Où vous placez la France?
Nous avons l'intention d'envoyer un exemplaire de cette BD à notre président et on verra s'il change de discours après.
Ouais, donc c'est pas suffisant, quoi, en gros?
Non, pour le moment, c'est clair que nous ne sommes pas au niveau.
Allez, ouvrons le débat avec les auditeurs de France Inter et le débat dans le débat sur les types d'énergie qui sont à notre disposition aujourd'hui. Bonjour Daniel.
Oui, bonjour.
Bienvenue.
Bonjour, Monsieur Jancovici, que j'admire beaucoup. Voilà, trois questions, enfin trois problèmes sur l'éolien. Bon, l'éolien, on insiste bien sur le massacre des paysages qui culturellement est tout à fait important. Et si l'éolien résolvait le problème, bravo. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Pourquoi ? C'est une énergie, je crois, très chère, en particulier en énergie fossile. Et je crois que le rendement de l'éolien n'est pas bon, n'est très médiocre, et que finalement, l'Allemagne est bien l'exemple d'une consommation d'énergie fossile, avec le gaz et les problèmes géopolitiques posés importants. Donc j'aimerais beaucoup entendre M. Jancovici nous éclairer sur ce plan et donner son opinion par rapport à l'énergie atomique vers laquelle l'Allemagne nous pousse à l'abandonner. Voilà.
Merci à vous, Daniel. Jean-Marc Jancovici vous répond.
Alors, je vais commencer par prendre une considération un peu plus générale. L'ère moderne, 19e et 20e siècle, en fait, c'est l'ère où nous sommes sortis des énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, on connaît bien, c'est les énergies avec lesquelles l'humanité s'est développée, entre guillemets, entre son apparition et il y a deux siècles. Les bateaux avançaient au vent, les moulins tournaient au vent, ils tournaient à l'eau, etc. Donc la bonne question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on est sorti des énergies renouvelables et pourquoi est-ce qu'une civilisation industrielle n'est pas arrivée avant le pétrole. Et en fait, la raison est malheureusement physique. Les énergies renouvelables sont souvent des énergies qui demandent beaucoup d'espace, c'est des énergies diffuses, et en ce qui concerne le vent et le soleil, c'est des énergies non pilotables, alors que le pétrole, on s'en sert exactement comme on veut, quand on veut, et ça se stocke et se transporte très très facilement. Donc l'éolien, la bonne question avec, c'est est-ce qu'on arrivera jusqu'au bout de la transformation ? Faire une éolienne, c'est très simple. Faire 10 éoliennes, c'est encore très simple. La bonne question, c'est est-ce qu'on arrivera jusqu'au bout de la transformation qui consiste à décarboner l'énergie tout en gardant un monde qui ressemble à peu près à l'actuel, avec de l'éolien et du solaire ? Et ma réponse, très rapidement, c'est que je crois qu'on n'y arrivera pas. Maintenant, si on regarde le cas particulier de la France, en plus, en France, l'arbitrage éolien-nucléaire est un arbitrage hors climat. C'est-à-dire le nucléaire n'émet pas de CO2, l'éolien en direct n'émet pas de CO2 non plus, enfin très peu, c'est la fabrication du dispositif. Donc vouloir remplacer l'un par l'autre n'a rien à voir avec une préoccupation climatique. Le débat se situe ailleurs.
Alors vous le savez, vous imaginez bien Jean-Marc Jancovici qu'il y a beaucoup de réactions sur votre position sur le nucléaire. Homero, si j'apprécie votre travail de fond et le bilan que vous en faites, ainsi que votre approche d'une réduction volontariste de notre consommation, je suis partagé sur votre position sur le nucléaire. Pouvez-vous me dire votre avis sur le rapport Négawatt qui lui veut sortir du nucléaire? Attention, monsieur Jancovici est un dangereux manipulateur pour qui la seule et unique solution au changement climatique est l'énergie nucléaire. Serge, est-ce vrai que le think tank de monsieur Jancovici est en partie financé par Areva? Vos réponses.
Alors,
vous y attendiez. Hein.
À la troisième question, la réponse est non. En plus, Areva s'appelle Orano maintenant.
Toujours non pour Orano.
Et c'est toujours non. Par contre, on a EDF parmi nos mécènes, mais c'est un parmi 10. Voilà.
D'accord. Alors, sur le nucléaire, vous attendiez, parce que vous êtes, pour ceux qui ne le savent pas, un défenseur du nucléaire.
Absolument. Alors, ce qu'on explique dans la BD, du reste, je ne sais pas, moi, c'est une des images que j'aime bien. C'est l'image du parachute ventral, c'est-à-dire que le nucléaire ne permettra pas d'éviter des efforts massifs, dont les gens n'ont pas idée, d'économie d'énergie et de sobriété. Mais ça permettra que ces efforts soient un peu moins violents que si on refuse le nucléaire. Donc c'est un amortisseur de la sobriété. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est une énergie sur laquelle on étudie les dangers depuis un siècle. C'est connu depuis longtemps, les dangers du nucléaire. Et il faut pas croire que les gens dans ce secteur font absolument n'importe quoi, n'importe comment, comme ils en ont envie. Quand on regarde, et c'est les Nations Unies qui tiennent l'inventaire, c'est pas moi qui le dis, quand on regarde les inconvénients des accidents nucléaires qui ont eu lieu dans le monde, on se rend compte que le nucléaire, c'est considérablement moins dangereux que le charbon, que la chimie, que la circulation automobile, que les piscines. Piscines tuent beaucoup plus de monde chaque année. Oui, il y a quelques centaines de personnes en France tous les ans. Donc il y a une objectivation des dangers du nucléaire. Et en fait, il n'y a pas de solution merveilleuse en matière d'énergie. Il y a un arbitrage entre les inconvénients et les avantages de chacune des formes d'énergie.
Mais est-ce que vous ne mettez pas trop rapidement sous le tapis, Jean-Marc Jancovici, dans cet album, Tchernobyl et Fukushima, la question des déchets nucléaires? J'aimerais
Tout ça est évoqué en images.
Évidemment.
Oui,
évidemment.
Pour le relativiser.
Non, pour l'objectiver.
Si. Oui, enfin, vous pouvez choisir les mots, mais je vous cite ceux de Pascal Canfin, par exemple, qui dit que personne ne peut aujourd'hui dire que les déchets ne posent aucun problème. Personne ne peut dire qu'il n'y a aucun risque d'accident systémique associé au nucléaire. Est-ce que vous ne sous-estimez pas le risque?
On ne peut pas dire qu'il n'y a aucun risque à prendre le train. En attendant, si vous prenez le train, vous prenez moins de risques que si vous montez dans une voiture. Donc la bonne question, c'est pas est-ce qu'il n'y a aucun risque, et du reste, comme le disait je ne sais plus trop quel humoriste, la vie est une affaire très risquée puisqu'on finit par en mourir. Mais la question est celle de la comparaison des risques, et c'est ça qu'on a essayé de faire dans cette BD. Quand on a parlé du nucléaire, on a essayé de comparer ces inconvénients avec ceux d'autres formes d'énergie à consommation égale. Voilà. C'est bien ça le sujet.
Est-ce que vous n'êtes pas un peu critique sur les énergies renouvelables? Elles étaient très chères, elles le sont de moins en moins. Leur prix baisse de 10%, je crois, chaque année. Certes, l'énergie nucléaire des vieilles centrales reste moins chère que l'énergie des renouvelables, mais si on compare aux EPR, c'est les renouvelables qui sont moins chères.
Alors, je voudrais quand même rappeler, puisqu'on parle de cette BD, que le nucléaire et les renouvelables doivent nous occuper 40 pages sur 200, donc on parle
quand même
pas,
aussi,
on parle pas que de ça.
Et vous noterez que ça n'occupe que 20% de notre interview. Puisque vous aimez les chiffres.
Non, mais c'est un sujet très tentant, évidemment. Mais sur la question du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée.
Du coup, du nucléaire, du coup, des renouvelables.
Aujourd'hui,
sur cette critique que vous avez des renouvelables.
Absolument. Alors aujourd'hui, il faut bien voir qu'en fait, le nucléaire, les renouvelables sont pas chères parce que c'est mondialisé. Par exemple, la totalité des panneaux sont faits en Chine, à quelques exceptions près. Et donc, la baisse du coût des renouvelables hérite du fait qu'on a un appareil industriel très performant dopé aux fossiles. On fait la métallurgie avec le charbon, on fait fonctionner les mines avec le pétrole, on transporte les composants avec des porte-conteneurs qui fonctionnent au pétrole. On a besoin de l'industrie chimique à tous les niveaux pour faire les composants des panneaux, etc. Vous avez 20 métaux différents dans un panneau solaire. Donc, c'est grâce à l'énergie fossile que les énergies renouvelables, que les collecteurs des énergies renouvelables, pour être plus précis, sont raisonnablement pas chers, parce que en fait, le système n'est pas complet avec des éoliennes et des panneaux solaires. Il faut rajouter le stockage qui va derrière. Et en fait, là, quand vous commencez à rajouter le stockage, les prix changent. Et la bonne question, c'est est-ce que dans un monde dans lequel on n'aurait que des moulins à vent et des panneaux solaires pour produire les éoliennes et les panneaux solaires et les transporter et les ériger, ça restera toujours pas cher? Et là, la réponse est probablement non.
Donc vous pensez que ceux qui disent, comme Jean-Luc Mélenchon, on sortira du 100% nucléaire dans 10 ans, c'est infaisable, en fait.
Si Monsieur Mélenchon est joueur, je parie volontiers toutes mes économies contre les siennes.
Et les écologistes qui disent plutôt 20-30 ans, mais on en sortira du nucléaire. Mais là aussi, vous pariez?
On n'en sortira pas du tout avec quelque chose qui ressemble au pouvoir d'achat des gens aujourd'hui. Ni même à la moitié.
Donc vous dites les écolos ont tort de promettre qu'on sortira
ils
du
ont
nucléaire
tort de dire,
en tout cas c'est pas faisable.
Ils ont tort de dire on peut le faire, frisou les moustaches, sans que personne ne souffre beaucoup. Ils ont tort de dire ça. En fait, ce qu'on essaye d'expliquer aussi dans cette BD, c'est qu'avec l'énergie, ce qui compte, c'est le volume, c'est pas le prix. Et il n'y a pas de lien entre les deux. Vous allez me dire comment ça, vous me réinviterez pour ça, mais il n'y a pas de lien entre les deux, malheureusement. Et ce qui compte, c'est vraiment le volume. Et donc, si on se prive du nucléaire, un pour un, on ne remplacera pas par des énergies intermittentes, diffuses, renouvelables. On n'y arrivera pas.
Une question très rapide, elle revient souvent chez nos auditeurs. Est-ce que vous travaillez un programme à soumettre aux candidats de l'élection présidentielle en termes d'enjeux environnementaux? Point d'interrogation.
La réponse est oui. Le Shift Project, qui est une association que j'ai créée en 2010, travaille depuis un an et demi sur quelque chose qui s'appelle le plan de transformation de l'économie française. Il y a pas loin d'une centaine de personnes qui ont travaillé à ce plan. Et c'est très exactement notre programme environnementalo-économique idéal, ou le début plus exactement de ce programme et d'une planification qu'on aimerait proposer aux candidats. Mais avant ça, on aimerait surtout le proposer aux gens qui vont devoir faire. Donc en ce moment, j'ai envie de dire la campagne de vente de ce produit-là a surtout commencé avec la société civile. Donc on va voir le patronat, les syndicats et un certain nombre de corps constitués pour leur demander ce qu'ils en pensent et si ça leur plaît.
Voilà. Jean-Marc Jancovici, merci d'avoir été à notre micro ce matin. Le Monde sans fin chez Dargo, le nom de cet album que vous signez avec Christophe Blain et qui sortira dans 8 jours, le 29 octobre prochain. Très bel album. Merci beaucoup.
France Inter.